Quand je vais aborder donc le thème de l'amitié, et bien sûr l'amitié dans la Bible, et l'amitié avec Jésus, l'amitié avec Dieu. Ça vous va ? Alors, je vais quand même vous préciser que je ne le ferai sans mièvrerie. Moi, très souvent, j'ai entendu énormément de prédications sur l'amour et l'amitié. J'ai toujours trouvé ça très mièvre, très policé, et honnêtement, j'espère que je ne vais pas tomber dans le même travers. Pas de faux semblants. Et je vous propose d'illustrer ça. C'est la première fois que je fais une prédication avec un PowerPoint. Donc, d'illustrer ça avec... Non, vous êtes trop vite, là. Trop rapide. D'illustrer ça avec, des peintures religieuses. Peintures de grands maîtres religieux. J'ai appris pas mal de choses. Alors, l'amitié, c'est un mystère. C'est un mystère, pourquoi ? Parce que c'est un vaste sujet, n'est-ce pas ? C'est un sujet dense et complexe, et on peut le dire, vous pouvez le constater dans votre propre vie, c'est une quête permanente pour nous, nos vies personnelles. On cherche tous à avoir des amis, on cherche tous à être l'ami de quelqu'un, on cherche tous à nouer des relations d'amitié. Et bien sûr, c'est un sujet... on s'en rendra compte, qui occupe une place centrale dans la Bible, l'amitié. Alors, les philosophes grecs ont investigué sur l'amitié, beaucoup de citations, on va le voir tout à l'heure, les sagesses de toutes les civilisations s'y sont intéressées à l'amitié, tous ont tenté de percer le mystère de l'amitié, tous ont tenté de découvrir la beauté de l'amitié, et tous ont essayé de définir les limites de l'amitié. Alors, il y a diverses définitions de l'amitié, même à l'infini, hein, et chacune est plus vraie que les autres. La première, c'est la suivante, s'il vous plaît. Alors, il ne vaut pas la peine de vivre si l'on n'a pas un bon ami. C'est Démocrite qui l'a écrit. Épicure lui a dit, ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Ben, pas mal, ça. Francis Bacon a dit, l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Voltaire a dit, toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Jean de La Fontaine a dit, alors c'est du Jean de La Fontaine, chacun se dit ami, mais fou. Mais fou qui s'y repose, pardon. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Rien n'est plus rare que l'amitié. J'aime bien aussi la citation d'Aristote qui dit « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. » Voilà, c'est clair. Et il y a aussi celle de Paul Verlaine qui est pas mal, bon c'est juste pour donner un peu d'humour, il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables. Voilà. Judas avait des amis irréprochables. Et enfin, bon, vraiment, ce qui peut vraiment résumer l'ensemble du message que je vous apporte, c'est le nom d'ami est assez commun, mais l'amitié fidèle est bien rare. Et ça, c'est important. Alors, les chemins de l'amitié. Comment définir la notion d'amitié ? Alors, avec tout ce qu'on a lu, on peut dire que l'amitié se définit en deux mots. L'amitié est une relation d'intimité. S'il vous plaît. L'amitié est une relation d'intimité. Et on peut même dire que c'est une relation d'intimité avec une tierce personne, s'il vous plaît, et avec soi-même. On est ami avec l'autre et on est ami avec soi-même. C'est important. En gros, l'amitié, c'est comme dans un couple. C'est une relation d'intimité, mais sans sexualité. Je vous rappelle que dans le couple, nous sommes censés être amis aussi, n'est-ce pas ? Et nous pouvons découvrir cette relation d'intimité tout au long de la Bible, et particulièrement dans la Genèse, où il nous est précisé que Dieu et Adam, le premier homme, étaient amis. Effectivement, Dieu visite Adam le soir dans le jardin. Si ce n'est pas une relation d'amitié intense. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a un extrait, je vous ai mis un extrait d'une peinture de le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. On voit Dieu avec Adam et Ève qui sont en train de se promener dans le jardin. On sait ce qui se passe. Malheureusement, la désobéissance originelle entraîne la rupture de cette relation d'intimité. Mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une triple rupture. Il y a la rupture avec Dieu, puisque le texte nous dit dans Genèse 3, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. C'est la rupture avec le divin. Il y a la rupture avec l'autre. Tu peux revenir sur le... Voilà, merci. La rupture avec l'autre, en l'occurrence avec la femme, puisque le réflexe d'Adam, quand Dieu lui pose la question, c'est d'accuser la femme. C'est la première accusation de l'histoire de l'humanité. Et là, on voit bien, c'est pas moi, c'est elle. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est la première accusation. Et on peut même dire que c'est une double accusation. Quelque part, Adam dit, eh ben, Dieu, c'est de ta faute. Si tu ne l'avais pas mise auprès de moi, j'aurais pas mangé. Et c'est de sa faute parce que c'est elle qui m'a suivi. Donc, c'est une double accusation. Et c'est la première perte d'amitié, parce qu'on voit qu'entre l'homme et la femme, il y a une rupture. C'est de sa faute. Et enfin, il y a une rupture avec soi-même. Adam ne s'accepte plus comme il est, et il va se cacher. Il va s'habiller, comme le précise le texte dans Genèse 3, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfiert des ceintures. On le voit ici sur cette image. Donc on voit bien que cette triple rupture nous parle du vide qui va désormais habiter toute l'humanité, donc et avoir aux conséquences cette rupture avec soi-même, avec l'autre et avec Dieu. Mais peut-on rattraper cette perte de confiance? Peut-on rattraper une perte d'amitié? L'amitié est justement nécessaire pour réparer, régénérer, reconstruire cette relation avec soi, avec l'autre et avec Dieu. Ça va? Vous voyez où je veux en venir? Pas tout à fait. On a dit, l'amitié a une place importante dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Jacques nous rappelle que Abraham était ami de Dieu. Et pourquoi Abraham était ami de Dieu? Parce que Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Mais comment peut-on être l'ami de Dieu? Quel est le mécanisme de notre amitié avec Dieu? Jésus nous dit, voilà, je vous ai mis une magnifique peinture de Jésus prêchant, il nous dit dans Jean 15, du verset 12 au verset 15, il nous dit la chose suivante, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Alors, dans ces trois versets, il y a pour moi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Pour moi, ce sont les deux piliers de cette amitié, cette relation d'intimité qu'on a avec Dieu. Bon, moi, je trouve ça énorme. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais je trouve ça énorme et on va le détailler un peu plus loin. Mais pour bien comprendre l'amitié, parce que de quoi on parle exactement, je vais essayer d'abord d'intégrer, de voir ce qui existe entre nous, entre nous les hommes, et essayer de comprendre que notre amitié est fondée sur une relation spécifique avec Dieu. Notre amitié avec Dieu est fondée sur une relation spécifique, vraiment spécifique. Et pour cela, je voudrais reprendre le cas d'amitié d'Abraham. Et on l'a vu, Abraham est appelé ami parce que son amitié, cette relation spécifique, est fondée sur la foi. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? En gros, en vulgarisant un peu la chose, avoir la foi, c'est faire confiance. Avoir la foi, c'est reconnaître que Dieu est digne d'une véritable relation avec nous-mêmes. Et c'est surtout être persuadé que Dieu ne trahira pas cette relation. Et ce que nous découvrons ici dans Jean 15, c'est à peu près le même mécanisme. Jean s'adresse à ses disciples. Et là, il va falloir que les disciples de Jésus qui entendent ce message soient eux aussi des hommes de foi. On va le voir tout à l'heure, quoi. Alors, qu'est-ce que l'amitié? Alors, on va être clair, l'amitié, ce n'est pas une bande de copains. Ce n'est pas de ça dont on parle ce matin. C'est pas ce que je veux vous partager ce matin. La véritable amitié, l'amitié authentique, c'est pas du copinage, c'est pas une bande de copains. J'ai connu un pasteur qui disait souvent, Jésus est notre ami, mais ce n'est pas notre pote. Et ça me parlait beaucoup, parce que clairement, très souvent, on considère Jésus comme un pote. Mais ce n'est pas notre pote. C'est notre ami, ce n'est pas notre pote. L'amitié est une relation spéciale, unique, qui est fondée sur plusieurs éléments. Elle est fondée sur la confiance. Elle est fondée sur l'écoute, la droiture, le respect, l'acceptation des manques de l'autre, et surtout sur la réciprocité. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, et particulièrement en Christ. Christ, nous ne sommes ni jugés, nous ne sommes ni repoussés, mais nous sommes accueillis. Vous en êtes convaincu, j'espère. Alors, on peut se rendre compte à quel point les véritables amis sont extrêmement rares. Rappelons-nous de la citation, le nom d'ami est assez commun, mais l'ami fidèle est rare. Mais notre amitié avec Dieu est-elle équilibrée ou déséquilibrée? Doit-on être parfait dans cette amitié avec Dieu, dans cette relation d'amitié? C'est toujours en se basant sur les amitiés humaines que je vous propose que l'on essaie d'appréhender comment la relation d'amitié s'installe avec notre Seigneur et avec Dieu lui-même. Dans mes discussions avec Tatiana, en échangeant sur ce message, ma démarche est vraiment de partir de ce que nous vivons pour pouvoir essayer d'appréhender ce que nous pouvons établir avec Dieu. Ce que nous vivons entre nous, de façon horizontale, pour pouvoir établir cette relation verticale avec Dieu. Alors, comment reconnaît-on un ami? Il y a plusieurs critères, mais à mon avis, je peux vous en proposer quatre principaux. Le premier, c'est l'absence d'intérêt. Véritable ami, on n'a pas d'intérêt à avoir un véritable ami. De nos jours, nos relations dites d'amitié sont fondées sur trop souvent une recherche d'intérêt. Que ce soit dans le monde politique, dans le monde du sport, le gotha, les sphères d'influence, il suffit de constater un simple revers de fortune et hop, quelques difficultés et on n'a plus d'amis. Les amis disparaissent. On reconnaît aussi le véritable ami dans la détresse. En effet, devant les difficultés des uns et des autres, beaucoup fuient. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, notamment devant la souffrance et la maladie. Je croyais être l'ami de certains, et devant leur souffrance, leur maladie, je me suis enfui, parce que je ne supportais pas de voir ça. Et c'est vraiment la maladie, la longue agonie de mon père qui m'a un peu... parce que là, je n'avais pas le choix, c'est mon père, il faut que je le visite à l'hôpital, il faut que je le soutienne, il faut que je sois présent. Et là, j'ai été vraiment contraint d'affronter la maladie et la souffrance. Troisièmement, le véritable ami se mesure aussi dans la durée. Les vrais amis s'inscrivent dans le temps et pas forcément dans l'omniprésence. Pas parce qu'on est tout le temps présent et qu'on envahit une relation qu'on est un bon ami. La marque d'une amitié sincère ne doit pas être altérée par le temps. Et enfin, l'absence de crainte. Dans une véritable relation d'amitié, on peut être tel qu'on est. On ne joue pas une comédie, on ne joue pas un rôle, on n'a pas un masque. On est tel qu'on est parce qu'on est en confiance et qu'on sait que l'autre nous accepte. Ça, c'est important. Si vous jouez la comédie devant un ami ou avec un ami, c'est pas votre ami. En tout cas, vous ne le considérez pas comme tel. Et bien sûr, vous vous rendez compte, tous ces points, on les retrouve dans le caractère de Dieu et de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Bon. Il n'y en a que quelques-uns qui sont bons. Alors, quels sont les écueils à l'amitié, du coup, à contrario? Il y en a cinq principaux, il y en a plein. Je vous propose de partager cinq écueils. Le premier, c'est l'ennui. L'ennui au quotidien, l'ennui du quotidien, on se lasse de l'autre. L'ennui, ça arrive aussi malheureusement dans les couples, on se lasse. Rien n'est pire dans une relation, particulièrement dans le couple, quand l'ennui s'installe. Le deuxième écueil à l'amitié, c'est l'activisme. Quand on est trop occupé par son action, par son travail, par son sport... par ses engagements personnels, par ses passions, et qu'on n'a plus de place pour l'autre. Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Hein. Pas le temps pour la prière, pas le temps pour l'écoute, pas le temps pour la méditation, pas le temps pour la lecture, et pas le temps pour la rencontre divine. Ça nous arrive. Moi le premier. Troisième écueil, c'est l'inégalité, quand notre relation est déséquilibrée, quand l'un ou l'autre surenvahit la relation, quand il surenvahit l'espace de l'autre, quand on devient étouffant. Une amitié qui s'exprime par exemple avec des cadeaux démesurés. Voilà, quelqu'un qui a les moyens, qui fait des gros cadeaux, l'autre qui croule sous les cadeaux, qui ne peut pas répondre de la même façon. Ou encore une amitié qui est étouffée par des comportements qui peuvent être un peu de domination. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, puis mon ami, on essaie de contrôler, de diriger la vie de l'autre. Tout ça, ça pollue, ça étouffe la relation. Ça la rend stérile et finalement, cette relation d'amitié peut s'éteindre. Quatrième écueil, les attentes. L'amitié doit se construire sans rien attendre de l'autre. Que ce soit au niveau dans l'intérêt, on a vu c'était un des premiers critères, mais là, rien attendre de l'autre. Rien n'est pire dans une relation que les projections, les reproches, les exigences. Et le fameux « tu aurais dû ». Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû dire cela, tu aurais dû me comprendre, tu aurais dû faire ça, c'est la mort de la relation. Les attentes. Et enfin, le cinquième point, c'est les changements. Nos vies se renouvellent, on évolue. Elles ne sont pas statiques et nous sommes en perpétuelle évolution normalement. Et ces changements peuvent mettre fin à une amitié. Moi, le plus gros changement dans ma vie, ça a été ma conversion. Et j'avoue que après ma conversion, j'ai perdu quasiment tous mes amis d'avant, que ce soit de leur fait ou de mon fait. Parce que voilà, je ne suis plus du monde, je ne veux plus, voilà. Donc, du coup, voilà, il y a eu un changement radical dans ma vie. Et clairement, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais je vous propose maintenant d'aborder un petit sujet sur la frontière. Quelle est la frontière qui existe entre amitié et amour ? Parce que parfois, ça peut être confondu. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans la Bible, il y a des niveaux d'amour qui sont comment dire, décrits, en tout cas cités, et qui reprennent deux des trois niveaux d'amour des Grecs anciens. Trois niveaux d'amour, vous les connaissez, hein. Le premier, c'est l'amour charnel, éros. Ce mot n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, je vous précise. Éros, c'est la passion. Eros, ça veut dire aussi souffrance. Et souvent, effectivement, nos passions peuvent devenir des souffrances. Dans la passion, on ne pense pas objectivement. La passion nous rend aveugles. La passion nous domine. Et notre cerveau sécrète à ce moment-là une dose énorme de dopamine. Notre cœur s'emballe et là, on ne maîtrise plus rien. Eros, la passion. Le Nouveau Testament utilise philéa pour parler d'un amour d'amitié. C'est l'amour qu'on retrouve dans Jean 20 au verset 3, l'amour que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. C'est l'amour philéa. C'est l'amour d'amitié. C'est un attachement à l'autre. Je souhaite son bonheur, c'est ma valeur, ses bonheurs me sont importants. Et là, le cerveau, notre cerveau, hein, qui est une petite anecdote, notre cerveau développe une hormone qui est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais il y a aussi dans le Nouveau Testament l'amour agapé. L'amour agapé qui a été introduit par Paul dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens, désigne l'amour idéal, l'amour inconditionnel, l'amour de prédilection. C'est le mot chrétien, entre nous, hein, quand on parle de l'amour agapé, c'est l'amour pur, l'amour parfait, l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous devons avoir pour Dieu et aussi l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Je vais juste faire une petite digression sur le fameux échange entre Jésus et Pierre dans Jean 21. Quand Jésus interroge deux fois Pierre en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu ?» En fait, dans le texte grec, il est écrit « Pierre, m'agapes-tu ?» Et chaque fois, Pierre répond « Oui, je te filéa. » Première fois, « Pierre, m'agapes-tu ? » ?»« Oui, je te filéa. » »« Pierre, m'agapes-tu ? » ?»« Oui, je te filéa. » Et à la troisième question, Jésus s'abaisse au niveau de Pierre et lui dit « Pierre, est-ce que tu me filéas ?» Et là, Pierre confirme « Oui, je te filéa. » Ça prouve bien qu'il y a vraiment cette notion, cette différence de niveau. Et c'est important, je vous invite vraiment à lire vos Bibles avec des strong, des concordances et des traductions grecques et hébreux. Ça vous permet d'avoir des subtilités qui ne sont pas anodines. Alors très souvent, on considère que ces trois formes d'amour, donc Eros, Philéa et Agapé, sont cloisonnés, on doit l'être dans l'une ou dans l'autre de ces formes. Entre un chrétien, c'est agapé, entre ami, c'est philéa et tout. Moi, je pense qu'on passe de l'une à l'autre dans nos vies et que ces trois formes d'amour ne sont pas cloisonnées. Et particulièrement dans un couple. Dans un couple, on passe de l'amour éros à l'amour philéa, à l'amour agapé et ainsi de suite. Le couple se renouvelle, s'invente à nouveau, sans se lasser, sans s'enfermer. C'est important de comprendre ça pour nos vies personnelles. Alors, bon, classique, je vais vous présenter quelques exemples d'amitié dans la Bible. On va passer rapidement dessus parce que c'est classique, hein, on l'a tous étudié. Premier exemple, c'est Jonathan et David. On peut lire, étudier dans 1 Samuel, le livre de 1 Samuel. C'est une amitié pleine de loyauté. C'est une amitié attachement d'âme. Il y avait vraiment un attachement d'âme entre Jonathan et David. Deuxième exemple classique, Élie et Élisée. C'est l'amitié qui édifie. On peut l'étudier dans Deux Rois, le livre Deux Rois. Enfin, troisième exemple, Ruth et Naomi, classique, bien sûr, c'est l'amitié fidèle. Cette fidélité que Dieu récompense souvent et que Dieu qui touche Dieu, la bonne fidélité. Alors je vais quand même faire une mise en garde, et là je m'adresse particulièrement aux geeks. Une amitié demande tant d'attention et de délicatesse. Une amitié est une relation d'intimité qui est forcément rare. Et aujourd'hui, de nombreuses amitiés sont basées sur les réseaux sociaux. Un exemple, moi j'ai une fille ma cadette a 20 ans. Et quand je lui dis « Oui, mais tu ne peux pas raconter tes vacances, ou tu ne me dis pas ce que tu as fait, comment s'est passé ton week-end », parce qu'elle me répond « Mais papa, tu es sur Snapchat, tu n'as qu'à aller voir Snapchat, tu vois ». Je lui dis « Mais non, mais c'est pas avec Snapchat que je vais échanger, partager avec toi ». ».« Non, non, mais tu es tout sur Snap, regarde sur Snap, tout est là ». Donc, moi, je suis convaincu que les réseaux sociaux sont l'anti-amitié. Clairement, l'anti-amitié. Les relations virtuelles n'engagent à rien, et c'est pour ça qu'elles peuvent être multipliées à l'infini. Je ne sais pas combien d'amis vous avez sur Facebook, mais voilà, ce ne sont pas des amis, ce sont des relations. Donc c'est important de savoir, et tout à l'heure je porte ce message à l'église chinoise, où la moyenne d'âge est, on peut le dire, énormément plus... je pense que je vais insister un peu plus sur les réseaux sociaux. Bon, alors maintenant, on va entrer dans le dur. L'amitié avec Jésus. L'amitié avec Jésus. Dans Jean 15, il nous est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, c'est le premier sujet essentiel pour moi du message, essentiel pour l'évangile, essentiel pour le christianisme, essentiel pour nos propres vies. Pourquoi ? Parce que c'est en devenant ami de Christ que notre vie change. Moi, ma vie a changé pendant... Christ est devenu mon ami, en tout cas. Je ne prétends pas être forcément son ami tel que je vous le décris aujourd'hui. Jésus dit donc, vous êtes mes amis, mais curieusement, il pose une condition. Vous êtes mes amis si. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'amitié véritable, normalement, est sans condition. Vous êtes d'accord ? Pourtant, là, il dit bien, vous êtes mes amis si. S'il y a une condition, est-ce vraiment de l'amitié? C'est une question légitime qu'on peut se poser, hein, clairement. En prenant mal cette phrase, on peut aisément se tromper. Jésus ne nous demande pas d'avoir une vie exemplaire. Jésus ne nous demande pas de jeûner plus. Jésus ne demande pas de nous priver de ci ou de nous priver de ça. Jésus ne nous demande pas d'avoir des gestes et des actes et des attitudes de bondieuserie, comme on dit dans les milieux catholiques. Jésus nous dit et insiste, je vous commande de vous aimer les uns et les autres. C'est ça. Il y a toute une série de versets où on retrouve cette récurrence de nous aimer les uns et les autres. 1 Jean 3, 11. Je ne vais pas vous les lire, hein, parce qu'il y en a, il y en a trop. 1 Jean 3, 23. 1 Jean 4, 12. 2 Jean 1, 5. Matthieu 22, 36. Et Jacques 2, 8. Qui fait même allusion à la loi royale. La loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, clairement. Je vous ai mis en bleu chaque fois la récurrence de nous aimer les uns les autres. Donc c'est vraiment une insistance dans le discours de Jésus. Jésus, quelque part, nous demande à apprendre à être un ami authentique, à vivre une amitié authentique, à penser une amitié authentique, à respirer une amitié authentique. Il nous demande même d'inventer la relation la plus belle qui soit, c'est-à-dire l'amitié. Et c'est alors là qu'il sera au cœur de la relation et qu'il sera, que nous serons ses amis pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez le principe ? C'est comme la pureté. La pureté n'est pas la condition à la sanctification. La pureté est une conséquence de la sanctification. Ce n'est pas en étant pur que je deviens sanctifié, mais c'est en étant sanctifié que par conséquent je suis pur et que la pureté intervient. Il y a vraiment un sens unique dans le processus. Et c'est en commençant à nous aimer les uns les autres qu'à ce moment-là, nous pourrons prétendre aimer Dieu et qu'il sera dans nos cœurs et que nous deviendrons ses amis. Et on a tout intérêt à le faire, parce que le Christ le Père signifie tout ce que nous pourrions attendre d'un ami. Ça, c'était le premier sujet essentiel. Le deuxième sujet essentiel, c'est dans Jean 15, quand il dit « Je ne vous appelle plus serviteur ». Et là, ça me rappelle le chant d'Esther tout à l'heure, parle-moi. Pourquoi il ne nous appelle plus serviteur ? Parce que... qu'il nous appelle amis, mais je vous ai appelé amis, on le lit en dessous, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il nous a parlé. En fait, Jésus nous apprend que nous passons du statut d'ouvrier, de serviteur, à celui d'ami, car il nous confie tout. Il nous confie sa personne, il nous confie sa parole à proclamer, il nous confie la clé du salut, la dépose entre nos mains, et il nous demande d'annoncer ce salut. Il nous confie tout. Et cette relation d'amitié, je vous appelle mes amis, je vous ai appelés amis. Jésus veut cette relation d'amitié. Et elle est la fidélité et la poursuite de toute une vie, puisque vraiment elle ira jusqu'à la mort. Jésus, l'ami parfait, dira... qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, on voit le Christ crucifié de Velázquez. C'est un tableau magnifique. J'ai passé hier après-midi quelques instants avec Emma qui posait plein de questions sur les détails. Il y a plein de détails sur cette peinture, ce chef-d'œuvre, et c'est intéressant. Donc, la finalité... c'est vraiment être ami et non plus serviteur ou ouvrier. Et pourquoi ? Parce qu'il nous dit tout, il nous confie tout. Ainsi, sur son exemple, offrons-lui notre vie tout entière, notre amitié authentique. Enfin, je vais conclure. On l'a vu, l'amitié véritable fait partie des cadeaux les plus précieux de notre existence. Elle est un antidote à la solitude. Elle est l'espace bienveillant de la parole échangée. Il y a de la bienveillance dans l'amitié sincère. C'est une question qu'on peut se poser, et certains écrits l'ont développé ce sujet. Et si l'amitié faisait partie du testament spirituel de Christ, quelque part. L'ami, celui qui nous accueille et nous accepte tel que nous sommes. Et auprès d'un ami, on trouve un repos, non pas un repos facile qui permet de se reposer, de s'endormir sur nos manques, nos fragilités, nos petites ou nos grandes lâchetés, mais un repos au sens où on peut se ressourcer dans une relation où la crainte d'être jugé est absente. Ça, c'est important. L'amitié sincère, l'amitié authentique. L'amitié se fait souvent entre deux amis lorsqu'ils se reconnaissent, lorsqu'ils reconnaissent qu'ils partagent quelque chose en commun, que ce soit une même culture, un même caractère, une même passion, une même épreuve parfois, ou un même combat. Mais l'amitié, c'est surtout quelque chose de plus mystérieux, on a vu tout à l'heure le mystère de l'amitié, mais quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Et parfois même, ça échappe à la compréhension des amis eux-mêmes. C'est un mystère, en ce qui me concerne, c'est un sujet de partage permanent à la maison, tout comme le mystère de Christ, du regard de Christ sur nous. Honnêtement, je vous avoue, je confesse que l'amour de Dieu pour nous, les hommes, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas. Et je n'ai toujours pas compris. Sincèrement, tous les jours, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. Comment tu peux nous aimer? Alors, nous pourrions nous sentir écrasés, effectivement, par le poids de notre culpabilité, mais cette culpabilité disparaît en raison de la nature même de cette amitié parfaite. Et il est bien écrit dans la Bible, dans Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vais conclure par une citation d'Augustin, que j'aime beaucoup. Augustin, j'aime beaucoup Augustin, en tout cas les écrits d'Augustin. En aimant ce qui n'était pas aimable, il m'a rendu digne d'être aimé. En aimant ce qui n'était pas aimable, il m'a rendu digne d'être aimé. Je vous propose de prier. Merci Seigneur, merci pour cette amitié parfaite que tu nous manifestes. Merci pour cette insistance permanente dans ta parole, dans ton évangile, de nous aimer les uns les autres. Aide-nous Seigneur, dispose nos cœurs, touche nos esprits à nous aimer les uns les autres, afin que tu sois pleinement, que tu puisses pleinement t'installer dans nos relations, dans nos cœurs. Que tu puisses pleinement affirmer que nous sommes tes amis, Seigneur. Merci, merci parce que par ta parole, tu nous conduis sur le chemin de ta perfection. Merci parce que tu nous accompagnes, Seigneur, avec ton Esprit Saint. Je te rends grâce pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Je te rends grâce pour cette confiance que tu nous fais. Je te rends grâce pour l'amour que tu nous as manifesté en premier. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur, et même si c'est un mystère encore pour certains, particulièrement pour moi, vraiment, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour cela. Merci. Merci pour l'Église, le corps de Christ. Merci pour tout ce que tu pourras déclencher, tout ce que tu pourras affermir, Seigneur, dans nos relations. Merci pour le pardon que tu peux... répandre dans nos cœurs, Seigneur, que ce soit la demande du pardon ou l'acceptation du pardon. Merci, Seigneur. Merci aussi pour toutes les relations d'amitié qui sont déjà formées ou qui sont en cours de formation, Seigneur. Merci de les consolider, de les affermir selon ta parole, selon ton exemple parfait. Merci. T'ordons grâce, Père Céleste, et nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Seigneur, notre Seigneur, ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Amen.